Souvia, c'est un sujet traité par la Gemara. Souvia. C'est-à-dire, lorsque dans l'étude d'une Mishnah, la Gemara arrive à un sujet qu'elle veut isoler pour lui-même, ça s'appelle une souvia. Alors, cette souvia traite des signes, enfin, je vous donnerai plusieurs définitions par approximation, des signes auxquels on peut reconnaître la fin du temps d'exil. Alors, le sujet général, je ne me rappelle plus, ces textes ont été faits l'année dernière, le titre que je vous ai mis, Galut Geoula, je suppose.
Oui,
bon. Alors, elle commence par une braïta. Une braïta, tout le monde sait ce que c'est déjà ?
Non.
Vous n'êtes pas arrivé déjà à la Mishnah, la braïta ? Oui, vous êtes toujours divisé en deux, là.
Oui.
Bon, enfin, de toutes les façons, vous le réapprendrez. Alors, la braïta, c'est un enseignement que cite la Gemara pour éclairer une Mishnah. Alors, pour ça, il faut savoir ce que c'est que la Mishnah, ce que c'est que la Gemara. Bon, la Mishnah, c'est la mise par écrit de l'enseignement oral tel qu'il a été mis par écrit au temps du Beit Sheni. Et c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a mis par écrit la Mishnah, et dans d'autres écoles, les mêmes enseignements ont été formulés de façon analogue ou différente, et les formules qui n'ont pas été retenues dans la Mishnah officielle s'appellent Braïta, ça veut dire enseignement extérieur, littéralement. On en fait les connaissances de détails, vous les aurez dans les autres. Alors, cette souvia, donc ce sujet étudié par la Gemara, donc tout haute, traite des signes de la fin de l'exil, et je vais essayer de vous expliquer grosso modo quel est le sujet général dans lequel ce problème de l'exil va s'introduire. Et dans la Maseret Ketuvot, le sujet général, c'est les contrats de mariage. La Ketuva, ça tout le monde sait ce que c'est. Ketuva, c'est le contrat de mariage. Alors, il y a différents types de Ketuvot, suivant les statuts matrimoniaux, et c'est pourquoi c'est au pluriel, et la Maseret Ketuvot traite de ce problème. Et à un certain moment de l'étude, on arrive au problème suivant. Si un couple habite en Eretz Israël, et que le mari veut quitter Eretz Israël, la femme a le droit d'obtenir le divorce à cette voie. Inversement, si un couple habite en dehors d'Eretz Israël et que la femme veut monter en Eretz Israël et que le mari ne veut pas, la femme a le droit d'obtenir le divorce à ses droits à elle, c'est-à-dire elle a le droit à sa ketouva. La règle est que chaque fois qu'il y a une compétition pour descendre ou monter, descendre d'Eretz Israël ou monter en Eretz Israël et qu'il y a un désaccord dans le couple, alors c'est celui qui veut rester ou aller en Eretz Israël qui a les droits au divorce. Et grosso modo, voilà le sujet à l'intérieur desquels toute une discussion va être rappelée ou citée et qui a pour sujet plus précis les conditions de la fin de l'exil. Ce n'est que vers la fin de la nuit d'étude qu'on commencerait à voir que c'est ça le sujet. Alors on va aller lentement. Et je vous signale, pour bien éclairer le problème, que cette étude se trouve dans le Talmud de Babylone, le Talmud Babli. Pourquoi c'est important ? Parce que précisément, la communauté du Talmud Babli, enfin la communauté de Babylone où le Talmud Babli a été élaboré, la Mishnah, c'est la même. La Mishnah est la même dans le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Sauf des petites phrases qui sont un peu différentes dans la Mishnah telle qu'elle est retenue à Jérusalem et telle qu'elle est enseignée à Babel. Mais il n'y a aucune formule qui concerne notre sujet, en tout cas. Je veux dire, dans l'ensemble de la Mishnah a été enseignée en Eretz Israël. Et ensuite, pendant, si vous voulez, le temps du Beit Sheni, vous vous situez grosso modo, quelle que soit la classe de l'immigration que vous êtes, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on arrête. La Mishnah est d'Eretz Israël. Et puis, il y a eu deux ensembles d'écoles qui ont étudié cette Mishnah, et c'est la Gemara. Alors, il y a une Gemara du Talmud Yerushalmi et une Gemara du Talmud Babli. Mais la Mishnah, c'est la même, c'est celle d'Eretz Israël. Avec, comme je vous dis, retenez-le, parce que c'est important de le savoir à l'avance, qu'il vous arrivera de trouver que la formule de la Mishnah, telle qu'elle est dans le Talmud Babli, n'est pas toujours exactement celle que nous trouvons dans le Talmud Yerushalmi, mais grosso modo, c'est la même Mishnah. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi c'est important de savoir que cette étude que nous allons faire se trouve dans la Gemara du Talmud Babli? Et en particulier, c'est une Mishnah qui est contre, une Sugya, qui est contre la prétention d'une authenticité de la Torah en exil. Et le fait que cette étude se trouve précisément dans le Talmud de l'exil est un indice supplémentaire d'abord de la bonne foi des vrais Talmudistes de l'exil, et tout ça va s'éclairer en détail, et d'autre part de la force de cet enseignement. Par exemple, pour le dire d'une autre manière, si cet enseignement ne se trouvait que dans la Gemara du Yerushalmi, alors on dirait, bon, ça c'est l'opinion des rabbins d'Eretz Israël, c'est-à-dire des rabbins sionistes. Mais le fait que cette étude va se trouver précisément dans le Talmud Babli montre à quel point c'est vraiment l'autorité du Talmud qui est en question. Et corollairement, ça montre l'honnêteté des rabbins qui étudient à Babel une thèse qui est absolument contraire à leur propre position. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, bon, j'ai un peu schématisé pour aller un peu vite pour l'introduction, mais vous allez retrouver cela pas à pas dans l'étude tout à l'heure. Je ne sais pas comment on va s'en sortir à étudier tellement de nombres à la fois, mais enfin, on va essayer. Alors, on va étudier de la manière suivante. Je vais enseigner la signification de chaque formule pour que vous la découvriez. Et ensuite, on étudie ensemble, mais à une condition, c'est qu'on ne parle pas à la fois, un seul à la fois. Si quelqu'un pose une question, on la discute, et une fois que c'est fini, on continue à la suite. S'il y a une autre question, mais pas plusieurs qui parlent à la fois, c'est pas possible. C'est clair? Bien que ce soit une étude juive, c'est pas l'habitude hébraïque de parler tous à la fois. Bon, les juifs, bien, alors on commence par la braïta. La braïta va nous donner une première formule que vous allez noter très soigneusement dans votre mémoire, en vous aidant de vos cahiers si vous voulez. Mais pas avec des bruits de feuilles, c'est très gênant. On étudie oralement. Bien. Si vous notez, vous notez, mais sans bruit. Et vous suivez d'abord ce texte hébreu. Tanou Rabbanan. Nos maîtres ont enseigné. C'est la formule habituelle qui introduit une braïta. Nos maîtres ont enseigné. Les olam, dans tous les cas, Yadur Adam, suivez sur le texte hébreu, okay? Yadur Adam, un homme doit habiter, Yadur. Be'eret Israël, en Eret Israël, Afilou Be'ir Sheruva Goïm, même dans une ville habitée en grande majorité par des Goïm, Ve'al Yadur Be'chutz La'aretz, et il ne doit pas habiter en dehors d'Eret Israël, Chutz La'aretz, ça veut dire Chutz La'aretz, en dehors du pays, le pays c'est Israël, Afilou Be'ir Sheruba Israël, même dans une ville habitée en majorité par Israël, par des Juifs, enfin des Juifs, des fils d'Israël. Ici il n'y a pas Yehoudim, mais Israël. Vous voyez ce qu'est la formule, elle est très abrupte. Et vous voyez, le premier étonnement qu'il faut avoir, c'est qu'elle est citée tranquillement par les rabbins de Babel. Cette discussion que nous allons avoir, elle est faite à l'Académie de Babel. Plus exactement à Pumba, mais Pumba Dita, mais enfin, ça vous apprendra mes biographies. Alors, je reprends la formule. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, les olam, dans tous les cas, Yadur Adam Beret Israël, un homme doit habiter en Eret Israël. C'est pas la peine de recopier la traduction en français si vous avez le texte en français actuel. Vous notez les notes que vous voulez noter. Ne perdez pas de temps. Afilou Be'ir Sheruva Goïm. Même dans une ville qui habitait en majorité par des Goïm. Par exemple, au temps du Beit Sheni, il y avait des villes qui avaient été colonisées par les Grecs, puis par les Romains, et il y avait des villes où il y avait plus de Goïm que de Juifs. Inversement, dans la Gola, déjà à l'époque, il y avait des villes en majorité peuplées par des Juifs. Ça existe encore de notre temps, et voyez à peu près la différence. La formule est bien intégrée, toute la discussion qui va suivre va porter là-dessus. Et avant d'étudier cette formule et de voir toutes les implications que nous devons apprendre, nous allons voir comment la Braïta va fonder cette formule d'enseignement. C'est-à-dire, nous avons une formule qui est enseignée d'autorité. Elle vient de la tradition orale. Tanou Rabbanan. Vous voyez, ici, ce n'est pas qu'on nous cite un verset et que du verset on déduit un enseignement. On nous donne d'abord une formule de la tradition orale qui est enseignée d'autorité. Et retenez à quel niveau d'autorité cela se formule. Chaque fois qu'il y a une braïta qui est formulée par Tanou Rabbanan, sans qu'on a dit le nom de celui qui en particulier aurait enseigné cela, c'est qu'il y a un consensus universel. C'est clair ? C'est-à-dire, c'est une formule qui est admise sans discussion. Nos maîtres ont enseigné, en général, c'est la plus grande force d'indice d'autorité d'un enseignement du Talmud. C'est clair ? Bon. Alors, Léolam Yadur Adam Beret Israël, Afilou Beir Sheruva Goïm, Veal Yadur Bechutz Laaretz, Afilou Beir Sheruva Israël. Je sais pas, donne-moi un exemple d'une ville en Chutz-Laaretz, qui est en majorité peuplée de juifs.
New York, Brooklyn.
Oui. D'accord. Non. Et en France ? Où ça en est, ville juive ? Il y a déjà plus de juifs ? Mais c'était avant une ancienne. Non, c'est sûr. Oui, puis t'as dit sûrement. Oui. Alors voilà quel est l'argument, et nous allons retrouver tout de suite un verset dans Vaïkra. Chez Koladar Beret Israël, parce que tout celui qui habite en Eret Israël, Domé Kemi chez Yeshlo Eloka, ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Vous voyez, tout de suite, on s'aperçoit que les formules sont difficiles. Hein, on n'a pas compris tant qu'on ne les a pas étudiées. Pour le moment, je traduis, c'est, on va à la découverte. Hein. Alors, vous suivez... Non, ce n'est pas écrit là, c'est écrit sur votre texte. Vous suivez sur le texte hébreu, et vous vous aidez du texte français si vous voulez, mais l'étude va porter sur la difficulté des formules. C'est pour ça qu'il faut faire un grand effort d'attention. Hein. J'espère que vous êtes réveillés. Hein. Bon. Enfin, éveillés, pas réveillés, vous n'êtes pas dormi. Vous n'avez pas dormi. Chez Koladar Beret Israël, parce que tout celui qui vit dans le pays d'Israël... Domé Kemi chez Yeshlo Eloka ressemble à celui qui a un Dieu. Mais Koladar Bechutzalaret est tout celui qui habite en dehors du pays, en Chutzalaret, Domé Kemi chez Yeshlo Eloka ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Vous voyez donc à quel point cette formule est brutale. Et je voudrais aller tout de suite au-devant d'une objection. Qui est invraisemblable, à tel point c'est énorme, hein, parce que pendant des siècles et des millénaires, d'authentiques juifs, d'authentiques Israël, ont vécu en dehors du pays d'Israël et connaissaient cette braïta. Vous suivez ? Bon. Comment vous répondriez ? Comment l'objection viendrait à vous ? Oui, a priori, l'immense majorité des juifs qui habitent en dehors des rites d'Israël sont disqualifiés par cette Mishnah. Okay. Ils sont comme si ils n'ont pas de Dieu. De quel Dieu il s'agit ? Du Dieu d'Israël. Pourquoi c'est relié au pays d'Israël ? Ça va être l'objet de l'étude en particulier. Okay. Mais c'est une énorme invraisemblance, je ne sais pas comment dire. Des générations de rabbins, de juifs pieux, talmudistes ont étudié cette page en Chutz La'aretz et ils ont pu vivre en Chutz La'aretz en lisant cela. Vous comprenez le problème ? Bon. Qui pourrait formuler cette objection à sa manière, pour que je vois comment la question se pose à vous. Ça fait partie de l'objection. Ça fait partie de la même objection. Mais l'objection porte d'abord sur... Prenons d'abord la partie du peuple juif. Elle était énorme à travers les siècles. Pour qui l'identité juive, l'authenticité juive, était selon l'autorité du Talmud. On ouvre le Talmud, on trouve une braïta, c'est énorme comme autorité, okay, qui dit tranquillement, massivement, une bombe. Okay. Dans tous les cas, il vaut mieux habiter en Eretz Israël, même dans une ville peuplée en majorité de goïm, par exemple, un kibbutz lachem arat saïr, comme diraient les orthodoxes. Mais ici, il s'agit de goyim, pas de juifs. Et d'ailleurs, la guirsa authentique, c'est d'idolâtre. Bon. Et on a mis les goyim pour ne pas froisser les goyim. En réalité, ça veut dire idolâtre. Et pas habiter Rissaharetz, même dans une ville peuplée en majorité d'Israël. Pourquoi ? Alors, la braïta surenchère en disant, parce que celui qui habite le pays d'Israël ressemble à quelqu'un qui a un dieu, et d'abord pourquoi il ne dit pas « à un dieu » ? Avec la formule est difficile. Et que celui qui habite en Chutzlaharet ressemble à quelqu'un qui n'a pas de dieu. Bon. Mais avant d'aborder la difficulté de la formule, de la forme de la formule, le principe en lui-même est énorme, brutal. Okay. Ça veut dire que l'immense majorité des juifs à travers notre histoire semble être disqualifié tranquillement par cette braïta. Aucun rabbin n'a pensé qu'il habite Babel ou ailleurs à dire « mais enlevez-moi ça du texte, sinon je ne peux pas exister ». Vous voyez la massivité de la... Comment vous résoudriez une difficulté pareille ? C'est une impasse énorme. Vous comprenez ce que je veux dire ? La difficulté de ce qu'on entend. Alors, je vais un peu vous aider d'abord par une étude de vocabulaire. Et ensuite, vous allez essayer par vous-même de formuler votre propre réaction à cette découverte. Le terme qui est employé par la Braïta, c'est, et vous le suivez en hébreu, Yadour. C'est un mot qui signifie habiter. Par exemple, comme on dit une maison d'habitation, dira. Oui, la dour. Vous connaissez ça. Et il y a un autre mot qui signifie habiter, qui est la gour. Quelle est la différence?
Gour et dour.
Alors, la différence, c'est qu'il y a dour. La dira, c'est l'habitation fixe. C'est l'habitation où je suis chez moi. La dira, il y a dour. La gour, c'est habiter comme on séjourne à l'étranger. Ok? Vous voyez? Alors,
et...
Hein?
Dor.
Si, Nahon. Okay. Ça ne concerne pas notre sujet, mais un rapport linguistique. Okay. Zéro. Okay. Alors, vous voyez, d'abord, alors, tout de suite, dès qu'on se rend compte ce que dit exactement la Braïta en hébreu, ça restreint infiniment le problème. Okay. C'est-à-dire, celui qui considère que son habitation principale, comment on veut dire, son adresse principale, okay, permanente, okay, c'est cela qui est en question. L'Eolam, il y a d'où Adam Beret Israël, Afilou Beir Sherouba Goïm, Veal Yadour Bechus Laaret, Afilou Beir Sherouba Israël. Okay. Alors avant d'aller plus loin, vous voyez comment cette remarque va restreindre en réalité le problème. C'est clair ? Vous voyez que si vous lisez un texte français ou même un texte hébreu sans prendre attention au sens précis du terme, ou un texte français où ce n'est pas tout de suite expliqué en note de quoi il s'agit, alors vous risquerez de ne plus rien comprendre. Vous avez suivi ? Bon. Ça veut dire que cela, finalement, cette braïta ne concerne que ceux qui se considéreraient chez eux en route là. Ouais. Bon. Et ça va d'ailleurs vous permettre un peu à l'avance de comprendre pourquoi la deuxième formule est formulée comme elle l'est. Parce que celui qui habite en Eretz Israël est comme s'il avait un... Non. Mais ça on verra tout à l'heure. Et donc, oui, c'est pas du tout parce que j'ai assisté un peu à votre discussion de tout à l'heure que j'ai choisi ce texte, c'est celui qui avait de près, tout simplement. Vous voyez comme c'est très, très relié. Que le fond du problème, finalement, peut être éclairci par la différence entre dour et gour. Celui qui se considère à l'étranger, comme étranger, en route ça arrête, n'est pas dans le cas de cette excommunication, disons. Et effectivement, l'existence traditionnelle juive dans l'exil, et les mots ayant leur sens simple, était possible, et il y avait une sorte de cohérence, d'identité authentique dans le temps de l'exil, tant qu'il y avait empêchement de pouvoir habiter en Eretz Israël. C'est-à-dire, la question se renouvelle de notre temps, parce que de notre temps, le problème peut se poser. puisqu'il n'y a plus d'obstacle de revenir en Eretz Israël. S'il y a obstacle, ce sont des obstacles personnels qui sont à élucider, et précisément d'après le critère de la Braïta, est-ce qu'on fait partie de ce peuple qui considère que son chez-soi, c'est en Eretz Israël ou pas? Vous voyez le problème? Bon, puisque nous parlons déjà de cela, nous sommes quand même encore dans une époque de transition. C'est-à-dire que si vous demandez à un juif, comme ça, à brûle pour point, à Sarcelles ou ailleurs, de réagir sur cette Braïta, eh bien, il risque de réagir mal, parce qu'il est interpellé par agressivité ou n'importe quoi, alors que dans le fond de son cœur, il faut lui laisser le temps, dans le fond de son être, il faut lui laisser le temps de se réajuster à ce que dit la Braïta, et bien évidemment, il découvrira que lui, comme tous ses ancêtres pendant 2000 ans, ont vécu comme étrangers provisoires en Rousslavet. Vous comprenez? Mais il faut donc éviter une réaction épidermique, c'est le mot que je cherchais, provocative, qui ferait qu'il dira ben non, je me sens en français, je me sens chez moi en France, là il tomberait dans le coup de la voie. Oui. Vous pouvez le dire d'une autre manière, c'est clair? Vous pouvez le dire d'une autre manière. Et vous voyez pourquoi dans ces problèmes, il faut une précision du langage absolue. Parce que sinon on risque d'engager une discussion passionnelle qui est complètement dehors du sujet et qui finalement mène à des catastrophes. Vous suivez? C'est bien clair. Pour le dire, si vous voulez, sous une autre forme, sous une forme imagée, celui qui prendrait le passeport qu'il a, et c'est celui qu'il a au bout de 2000 ans d'exil, qu'il soit français, belge, suisse, peu importe, son passeport goy au sérieux, celui-là rentrerait dans le cadre de la Braïta. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Que son adresse permanente, réelle, vraiment? Bon. Alors que les Juifs, à travers l'exil, jusqu'à l'émancipation, c'était tellement évident, et même après, pour beaucoup de communautés, le passeport, c'était une possibilité de voyager, pas autre chose. C'était pas, ce que ça doit être d'ailleurs en principe, c'était pas la preuve qu'on faisait partie de la nation dans laquelle on vivait comme exilé. Vous voyez le problème? C'est-à-dire, prendre au sérieux la carte d'identité d'une autre nation, eh bien, c'est ça que veut dire la Mishnah. Ça veut dire qu'on considère qu'on est Biprinat Yadour. Okay. Celui qui se considère comme guerre en exil, quel que soit le pays, et quel que soit le statu quo de stratégie de coexistence avec les goïms chez qui on vit, tout ça c'est une stratégie de coexistence, est à l'abri de la Mishnah. Mais celui qui considérait que sa dira est vraiment à l'étranger, entrerait dans le cadre de cette Mishnah. Et donc, en principe, pour la loi talmudique qui est visée ici, c'était peu de gens. C'était finalement ceux décidés à quitter Israël. Dans tout le temps de l'exil. Vous comprenez ce que je veux dire? À quitter le peuple d'Israël et son histoire. Et vous savez à quel point, j'aime pas la Gola, mais il est bien évident que c'est pas du tout le cas d'une immense majorité de juifs qui, en parole, vous diraient ça, mais en réalité, c'est pas leur cas. Ils sont pris dans une espèce de piège, et de langage et de situation. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, alors je tiens toujours, et de plus en plus d'ailleurs, chaque fois que nous étudions ce texte, à vous avertir. Ne brandissez pas ce texte pour excommunier quiconque vit en dehors d'Eretz Israël. Okay. Rappelez-vous, Dour, pas Gour, dira, celui qui... Est-ce que c'est clair? Bon. J'ai un cas en tête, peut-être ça vous dit quelque chose, parce que chaque fois qu'il y a un problème comme celui qui s'est passé maintenant en France, il réagit toujours en disant, moi je me sens vraiment français. C'est Raymond Aron, par exemple, je l'ai en mémoire. Vous voyez, les déclarations de Raymond Aron, ok? Celui-là, on l'épinglera un jour. Mais c'est par exemple ce cas-là. Okay. Quand Guy de Rothschild dit ça, mais il faut quand même réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que, de quelle nature de stratégie il s'agit? Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Je me fais un petit peu l'avocat du... Bon. C'est clair jusque-là? Et là... Pourquoi vous riez? Parce que tout à l'heure, on a parlé de Rothschild. Okay. J'étais pas là, hein. Mais, bon, je pense. Excusez-moi. Je pense que c'est. Il ne faut pas parler d'hydrophile. Je pense que c'est suffisamment clair. Sur quoi ça se rattache, cette remarque? La différence entre Yadour et Yagour. Tout le monde est d'accord? Bon. Qui peut maintenant réagir sur le problème? Je vous ai un petit peu aidé.
situe quand même à un niveau spirituel.
Ah non, non, c'est un niveau existentiel, comme a dit Jean Simon. Oui, il est là encore. C'est un niveau existentiel. Celui qui se considère, qui vit son existence comme étant vraiment en exil, c'est sérieux. Je suis en exil, ça veut dire je suis étranger dans une nation étrangère à moi. Okay. Celui qui se considère comme ça et habite quand même là-bas, mais il y a gour comme guerre, parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est là où je veux arriver. Okay. Parce que ce n'est pas possible autrement. Et alors là, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas possible autrement, okay? De quelle nature sont ces obstacles, okay? Mais officiellement, l'obstacle, c'était l'impossibilité de revenir dans le pays parce qu'on avait un statut de déporté. C'est que c'est un déporté, il peut pas revenir chez lui. Okay? Les nations qui occupaient Eretz Israël empêchaient les Juifs de revenir. Revenir, c'était aller à la mort. Okay? Bon, je ne parle pas des fondateurs de l'État juif qui ont bousculé ce problème, mais je parle du cas normal, habituel, général. Okay? Par conséquent, s'il y a empêchement, eh bien, la loi est suspendue. S'il y a empêchement, on ne peut pas considérer qu'un juif authentique vivant en Chutz La'aretz est dans le cas d'être idolâtre, comme va nous dire la Sougia. Vous comprenez? Ça veut dire que cette braïta prend force de loi dans le cas, légal, dans le cas prévu par la loi. C'est-à-dire, premièrement, il s'agit de celui qui considère qu'il n'est pas en voyage en dehors de l'État d'Israël, même si ce voyage dure 2000 ans. Nous avons, nous les Juifs, considéré que nous étions en voyage à travers 2000 ans. À partir du moment où nous sommes tombés dans le piège de croire que nous n'étions plus en voyage, nous entrions dans le cas de cette braïta. C'est clair? Deuxièmement, s'il y a obstacle, alors... comment on dit ça en français? Il y a un principe juridique. Qui a fait du droit là chez vous? Oui, mais tu as fait du droit, mais quel est le principe? Vous voyez ce que je veux dire? Nul n'est censé. Non, moi?
Nul n'est censé.
Non, pas du tout ça.
Cas de force majeure.
Cas de force majeure. Si un cas de force majeure, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est ça qu'on dit. Hein? À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, peut-être que nous, les Juifs, nous sommes tenus à l'impossible. En fait, disons, c'est le principe légal. Okay? C'est clair. Bon. Alors, vous voyez que ça restreint considérablement. Le nombre de cas particuliers que cette loi concerne. Premièrement, c'est ceux qui se considèrent comme étant en adresse permanente à l'étranger, devenus citoyens du pays où ils vivent, mais en prenant ça au sérieux. Pas comme une stratégie de survie. Okay. Vous suivez? Par exemple, en France aujourd'hui, eh bien, il y a une immense majorité de la population juive qui n'est pas concernée par ce problème. Tous ceux qui sont encore, qui ont encore conscience d'être des immigrés, okay. Soit qu'ils ont été les immigrés d'Europe centrale ou d'Europe orientale, du bassin méditerranéen, ou récemment ceux d'Afrique du Nord. Ceux qui ont encore conscience d'être transplantés, immigrés. Malheureusement, il y a un piège secret là-derrière. C'est qu'ils se considèrent comme en exil, non pas d'Israël, mais du pays d'origine. C'est-à-dire exil d'Afrique du Nord ou exilé de Pologne. Vous avez remarqué cela? Mais en tout cas, ça concerne bien évidemment une petite partie de la population que les sociologues diasporiques, c'est-à-dire anti-israéliens, feignent de dire qu'elle est la plus nombreuse, mais elle est la moins nombreuse. Ceux qui se considèrent comme israélites et pas comme juifs. En réalité, c'est déjà très peu de gens dans cette population juive en France. Vous suivez ce que je veux dire? Okay. De plus en plus, l'immense majorité des juifs vivant en France prennent conscience qu'ils sont en situation d'immigrer. Et je pense que peut-être un auteur comme Albert Memmi a beaucoup contribué à éclaircir cela. Okay. En montrant que la condition de judéité, comme il dit, est une condition d'aliéné. Ça veut dire, sauf, d'étranger, pas comme les autres. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Bon. Vous voyez donc que finalement, il faut être extrêmement prudent pour manier ce principe, qui est un principe que nous avons rencontré comme une sorte de hache, de couperet, enfin de chose énorme, qui disqualifierait toute la diaspora a priori. En réalité, c'est loin d'être cela. Premièrement, ça met en dehors de la braïta tous ceux qui se considèrent comme étrangers. Deuxièmement, ça met en dehors de la Braïta tous ceux qui sont empêchés de pouvoir exercer leur volonté de retour. C'est clair ? Et vous voyez comment, vous vous rappelez le problème de la liberté, l'analyse du problème de la liberté, comment finalement on est jugé en toute authenticité dans la nature de l'adhésion intérieure que l'on donne à une certaine situation. Vous voyez ? Où est la liberté ? Finalement, la situation objective est la même. Un juif habite pas en Eretz Israël, mais à l'étranger. Il a un passeport, un drapeau, une mairie qui n'a rien à voir avec le peuple juif. Bien ? Mais la qualité, la nature de l'adhésion à cela, finalement, change tout. Vous avez compris ? Et sur quoi ça tient ? Sur la différence entre un mot. Cette nature de l'adhésion va être que je suis en dira ou en gerout. Vous voyez la chose américaine ?
Il y a beaucoup qui pourraient rentrer, qui ne rentrent pas.
Bon, d'accord. Ça, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est il faut que nous ayons une étude de la nature des obstacles. Okay. Je vais essayer d'en parler très rapidement. Okay. Parce que c'est beaucoup plus tard qu'on va voir ça dans l'étude. Mais enfin, quand même, pour le préciser. Objectivement, l'obstacle, c'est seulement le cas des Juifs de Russie, par exemple. Okay. Les Juifs de Russie sont empêchés. Et par conséquent, leur acte d'adhésion intérieure de se sentir en voyage en Russie suffit de les sauver par rapport à cette braïta, de les authentifier comme membres d'Israël. Vous comprenez ? Et il est bien évident qu'un juif de Russie qui réclame son visa de sortie, et d'ailleurs les Russes accomplissent le Talmud, parce qu'ils le mettent en situation de ne plus avoir de dira. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous voyez comme les Russes ont obéi au Talmud. Ils accomplissent la loi tout de suite.
Même si pour le Canada.
Tu vois, ça, j'avais pas pensé. moi, j'aurais tendance à dire oui.
Le cas des Russes est assez spécial parce qu'il y a le tampon juif en plus sur le passeport russe.
Oui, mais malgré tout, l'immense majorité des Russes qui ont adhéré au régime soviétique se sont considérés comme russes d'origine juive. Et que ça voulait dire le tampon juif pour eux ? Ça voulait dire leur origine, exactement comme les autres russes étaient de tel ou tel autre. C'est non, pas non plus si simple que ça. Parce que finalement, l'entité culturelle d'origine représente une nationalité dans l'Empire soviétique. Mais le cas des juifs est un peu particulier. Non, mais je veux dire que, à partir du moment où un juif se trouve dans un pays, dans un système politique, dans une société où il est empêché d'accomplir son désir de devenir en Israël, à ce moment-là, il n'est plus sous le cadre de la loi. Bon, ça, c'est l'obstacle objectif massif. Maintenant, vous allez me dire, les Juifs de France n'ont pas d'obstacle, puisque la Constitution leur permet l'immigration, et il leur suffirait de prendre un billet d'avion, même si ce n'est pas l'agent juif, dans une autre agence de voyage, pour venir en Israël. Mais en réalité, est-ce que vous croyez que c'est si simple que ça ? Parce que la preuve qu'ils ont des obstacles, même invisibles, c'est qu'ils ne viennent pas. Écoutez, essayons de raisonner. On n'est pas en réunion de mouvement sioniste, mais presque. Enfin, essayons de raisonner objectivement par rapport à l'étude talmudique. Qu'est-ce que le Talmud dirait d'une situation pareille où l'obstacle n'est pas un obstacle de tyrannie politique, où l'obstacle est un obstacle psychologique ? Est-ce qu'il n'y a pas dans un obstacle psychologique un conditionnement aussi grand de privation de liberté ? Rattaché un peu au cours sur la liberté. Oui ? Par conséquent, et ne croyez pas que je plaide pour eux, c'est beaucoup plus grave. Parce que si effectivement les obstacles ne sont plus extérieurs, objectifs, comme par exemple pour les Juifs de Russie ou de Syrie, disons, mais intérieurs, psychologiques, alors peut-être c'est encore beaucoup plus grave, que leur exil est beaucoup plus grave que l'exil auquel pense la formule générale de la loi en question. Vous comprenez ? Ça, j'y arriverai à la fin. Peut-être, je ne sais pas si on finira cette nuit, tout cela, mais j'arriverai à la fin de cette étude. C'est qu'on arrive à un stade où, à force d'avoir refusé de mettre fin à l'exil, on ne peut plus. On ne peut plus, absolument. C'est-à-dire, on arrive à un stade où l'exil devient la punition d'être resté en exil. Il y a effectivement privation totale de liberté. Et qu'à ce moment-là, la sortie de l'exil ne dépend plus de la volonté, puisqu'il n'y a plus de liberté, et qu'il faut vraiment un miracle. Hein? Alors, je vais vous lire un rashi sur un verset. Ne cherchez pas les livres, ça va faire un chat humain. Donnez-moi juste un livre de Devarim. Pas tout. Pas tous à la fois. Ça y est, voilà. Comment toutes ces choses ont été pensées à travers les siècles et enseignées et transmises. Okay. Je vais vous donner la référence. C'est dans le chapitre 30 de Devarim, si je me souviens bien. Sinon, c'est 32, mais ça doit être 30. Oui, c'est 30. Attends, je vais dans le verset d'abord. Une minute, je risque de le perdre. Alors, c'est dans le chapitre 30. Le verset 3. C'est un texte important qui parle de la promesse du retour de l'exil. Alors, chapitre 30 de Devarim, verset 3. T'as noté ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ne cherchez pas dans la Bible, ça va faire du temps. Je vais vous le lire. Je voudrais que vous notiez la référence. Le verset dit ceci. Veshav Hashem Elokechet Shibutra. Et Hashem, ton Dieu, ramènera ton retour, Verichamcha, et aura compassion de toi. Veshav Vekibetzra Mikola Amin, et il reviendra avec toi, il te rassemblera de tous les peuples, Hashem Eflitzra Hashem Elokechama, où Hashem, ton Dieu, t'aura dispersé. Et ça va même plus loin. Imi Yenida Hacha Bikhtse Hashamaim. Et même si ton exil t'avait amené à l'extrémité du ciel, Misha Mikabetra, de là-bas, il te ramènera, Hashem Elokecha ou Misha Mikacher. Bon. Et de là, il te prendra. Alors, Rashi dit ceci. En particulier, oui, verset 3. Verod Yeshomar. Et il y a à dire à propos de ce verset, chez Kadol Yom Kibbutz Galuyot, que le jour du rassemblement des exils est un jour grand, ou bekoshi, et avec difficulté, keilu hu atzmo, c'est comme si lui-même, et écoutez bien, Dieu lui-même, tsarich liot ochez beyadav mamash, est obligé de prendre chacun par la main vraiment, ish mimekomo, chacun de son endroit. C'est-à-dire qu'on arrivera à un stade où le jour du Kibbutz Galuyot, du rassemblement des exilés, sera aussi difficile que si Dieu lui-même est obligé de prendre chacun par la main pour le ramener. Un peu ce que fait le Maf, quoi, grosso modo. D'après le verset qui dit dans Isaïe, « Veate, et vous, tes louketu, vous serez glanés les Echad, Echad, un par un, Bnei Israël, les enfants d'Israël. » C'est énorme ce que dit Rachid. Ça veut dire qu'on arrivera à un stade où ça va être tellement bloqué, okay, de quoi on a parlé, des obstacles psychologiques, que Dieu sera obligé de prendre chaque juif par la main pour lui faire faire sa alia. Vous voyez que tout cela a été pensé et prévu. Et que c'est ça qui se passe. Okay. Et que... C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ? Hein? C'est celui-là. T'es sûr que c'est celui-là? Vous l'avez calculé? T'es sûr qu'il n'y en a pas un autre? Bon. Tout le monde a compris ce qu'il a dit. Alors expliquez.
Alors,
parlez pas ensemble.
Pita Guinel avait appris qu'il y avait 5845 versets, je crois, de la Torah.
Vous avez dit de chercher le verset, le 5708e verset, qui correspond à l'année de la création d'Israël, c'est 1948. Et puis ce verset qui dit justement que Dieu ramènera.
Très bien. Bon, c'est pas ça que je voulais citer, mais. Mais tu es sûr que c'est ce verset-là ? D'accord. Ce que je voulais citer, c'est Rashi. Mais n'est-ce pas pour expliquer ta question ? Maïs. Alors, le problème, c'est. Rappelle ta question exactement.
Tu dis qu'il y a des juifs en Europe qui pourraient pleurer, qui n'ont pas d'obstacle, qui ne viennent pas.
Attends, s'il s'agit de ceux qui ne veulent plus venir, c'est-à-dire.
Je pense qu'ils veulent venir.
Bon. C'est cela. Eh bien, c'est cette nature d'obstacle qui est peut-être encore beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus grave que l'obstacle objectif extérieur. Vous comprenez ? Donc, je crois que l'idée est très simple. La preuve, c'est qu'ils ont des obstacles. Ceux qui ne viennent pas. Et quand un obstacle qui n'est pas un obstacle objectivement joue quand même comme obstacle, c'est qu'il est beaucoup plus grave que s'il était un obstacle objectif. Bon. Seulement, comme je vous ai dit souvent, ce sont des sujets où on ne peut pas, bousculer le destin, si je dis, on ne peut pas juger a priori. Vous pouvez avoir un jour la surprise, dans quelques années encore, si Dieu veut, si les portes ne sont pas complètement fermées, de rencontrer en Israël des juifs que vous avez connus en France et qui étaient les pires anti-israéliens, non, et puis sauf un jour que ça se déclenche et le déclic fait que vous les rencontrerez à Beersheba. Pourquoi j'ai dit Beersheba, je ne sais pas.
Enfin, moi, on les considère actuellement comme irresponsables.
Pas du tout. Comme aliénés. C'est pire qu'irresponsables, c'est autre chose. Comme ligotés, comme en situation d'obstacle. Un jour, il y a un miracle qui se passe pour eux. Ce miracle peut arriver à cause des souffrances, il peut arriver par le mérite de leurs ancêtres, il peut arriver de mille manières, bonnes ou mauvaises, mais l'idée que je voulais citer avec Rashi, c'est qu'il arrive un stade où il faut un miracle pour que ça arrive. Parce que selon les lois du conditionnement humain habituel, pas conditionnement itnag, du comportement humain habituel, c'est devenu impossible. Oui. Il y a une sorte de privation de liberté là-dessus. Exactement ce que on désigne le terme de aliénation. Et lorsque, par exemple, Jean-Simon vous dit, et lui, il ne vous parle pas à partir de la Gemara, lorsqu'il vous dit, je ne sais pas si vous l'avez dit encore ce soir, mais que les Juifs de France ne savent pas qu'ils sont aliénés, c'est ça que ça veut dire. Que c'est arrivé à un stade tel que leur situation d'exil est la punition de ne pas y avoir mis fin. Et qu'ils ne peuvent plus. Et alors, pour que la promesse s'accomplisse, il faudrait un miracle. Mais qui va être concerné par le miracle, ça personne ne peut le savoir à l'avance. C'est pourquoi, ça, je vous donnerai un petit conseil genre militant sioniste, si vous arrivez à faire venir en Israël un juif, c'est un miracle que vous avez réussi. Comme a dit Rashi, vous avez aidé Dieu à prendre un juif par la main. C'est clair. Maintenant, vous avez suffisamment de livres ouverts devant vous pour savoir que c'est ça que la Torah dit. C'est pas Ben Gurion, c'est mon cher Rabbeinu. J'ai pas dit que c'était différent. Sur ce point, en tout cas.
Le miracle, c'est la connaissance, finalement, parce que le problème se pose pas entre les juifs qui veulent et les juifs qui veulent pas. Il y en a qui savent même pas. Je pense à ma famille en Russie, ils ne connaissent rien sur Israël. Ils savent qu'ils sont juifs, c'est marqué sur leur carte d'identité, mais ils ne connaissent pas Israël, ils ne savent pas ce que c'est la réalité.
Bon, je vais te dire.
Il manque ça, c'est...
Je vais te dire, je ne sais pas, parce que tu prends le même lot de juifs, Ken, à qui tu donnes à tous cette connaissance. Certains se déclencheront, d'autres pas. Donc la connaissance est peut-être, dans certains cas, une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante. Il y a encore autre chose. Tu comprends ?
La bonne connaissance.
Nous, alors c'est ça le miracle. Bon, mais c'est une manière de parler à ce moment-là. C'est une question de mots à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut rapprocher ça à ce qu'on a vu dans le cours sur la liberté ? C'est-à-dire que c'est devenu une habitude et ce qui a passé habitude devient existant.
Ah oui. C'est-à-dire que je dirais que c'est peut-être un peu une notion différente, une inertie. lorsque le poids de l'inertie joue, alors on devient inerte. Quoi. C'est une espèce de l'habitude devient plus que simplement une habitude qu'on pourrait briser. Ça fait un tel poids d'inertie que c'est bloqué. Okay. Et au point que, vous voyez, toutes ces stratégies... Je viens encore de recevoir le dernier numéro de Nouveau Cahier. Et vous savez ce que c'est que le Nouveau Cahier? Bon, grosso modo. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, sinon je vous dirai les pages entières. Où on voit que tous ces intellectuels juifs de France qui s'ingénient à chercher une porte de formulation, de dégagement de leur identité juive, mais radicalement en dehors de la normale, c'est-à-dire que l'exil doit prendre fin et venir en Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce d'ingéniosité démoniaque, okay, vraiment, et avec une espèce de les yeux fermés, les œillères, comme si ça va de soi qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de perpétuer son identité dans l'exil. Okay. Une espèce de ligoté, aliénation totale, impossibilité d'arriver à voir la vérité en face. Okay. Et c'est très dangereux, pourquoi? Parce que c'est au même moment où l'égoïsme tout entier, le monde des goyim tout entier, les matraques, vous êtes juifs, vous êtes juifs, vous êtes juifs. Et que ça veut dire Israël. Vous voyez à peu près comment ça s'organise. Donc vous voyez ce que la Torah prévoit, okay, c'est que cette condition d'exil risque de mener, en fin de compte, à un piège total. Et là, ce que tu as appelé des obstacles, ce que j'appellerais des obstacles invisibles, ils ne sont pas de la nature de ces obstacles objectifs que nos ancêtres ont rencontrés pendant 2000 ans, okay, et sont peut-être encore beaucoup plus graves. Et que là, pour les briser, il faut un miracle. Je vous le dirai peut-être d'une autre manière. Après tout, chaque juif qui est revenu en Eretz Israël est revenu à un certain moment de sa vie. Oui. Donc à un certain moment, il y a quelque chose qui s'est déclenché, et pas avant. Quelle que soit la connaissance, quelle que soit la bonne volonté. Est-ce que c'est clair? Non, ce que je voudrais dire, c'est que... et j'en ai souvent parlé avec les responsables du mouvement sioniste. Je ne crois pas que transmettre des connaissances suffise dans un problème de ce genre. Ça aide, bien entendu, mais le déclic est de notre ordre. C'est une prise de conscience d'identité. Alors, bien entendu, la connaissance, ça aide. Mais regardez, moi, j'ai fait partie d'une génération, juste après la guerre, où on peut dire qu'à part les exceptions qu'on pouvait compter sur les doigts de la main, et ce qu'on appelle aujourd'hui la jeunesse juive n'avait aucune idée de l'existence des sources juives. Choum d'avoir, okay, rien du tout. Okay. Je me rappelle, je vous donne un petit exemple d'un ami que j'avais qui voulait étudier le judaïsme. Et il avait une seule solution, c'est d'aller à l'école rabbinique, devenir rabbin. C'est-à-dire, pour pouvoir être juif, il fallait être rabbin. Vous voyez à quel niveau c'était arrivé, okay. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale, okay. Et alors, vous voyez à quel niveau c'est.
Il est encore avec l'actuel. C'est-à-dire que les gens pensent qu'en étant en Mayanote, on va devenir rabbin.
Non, attendez.